Cause à effet, le magazine de l'environnement.
Je crois qu'il y a deux façons de réduire les inégalités. Kerry est très très clair là-dessus. Le premier système, c'est d'augmenter les impôts, et l'autre, c'est la philanthropie. Il faut être très malin, il faut faire bien les choses avec ces deux leviers-là. Plus de 95% de l'argent que moi, je possède, va retourner aux pauvres pour les aider à travers le monde. Et nous avons plus de 130 personnes très riches qui ont accepté de donner plus de la moitié de leurs possessions. Donc je ne dis pas que la philanthropie suffit, mais c'est une contribution significative. Et je crois que les gens qui sont des philanthropes vont être d'accord avec ça. C'est une situation gagnant-gagnant.
Génie de l'informatique, vénéré pour sa success story entrepreneuriale avec Microsoft, Bill Gates est l'un des hommes les plus riches et les plus puissants au monde. En décembre 2005, le magazine Time choisit de faire sa une sur le couple Bill et Melinda Gates, désignés personnalité de l'année avec le chanteur Bono pour leur action en faveur de la justice dans le monde. Derrière cette image iconique, qu'en est-il en réalité ? En quoi les opérations philanthropiques de la Fondation Gates seraient-elles un outil au service de multinationales nocives pour l'environnement, pour la santé et pour la justice sociale ? Des actions caritatives au profit, quel est le vrai visage de cette fondation bienfaitrice ? Évitements fiscaux, conflits d'intérêts, pratiques illicites, arrangements illégaux, une enquête menée sur ce philanthrocapitalisme et le plus grand donateur de la planète nous amène à questionner cet univers. Avec vous, Lionel Astruc, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivain et journaliste, expert de la transition écologique et auteur du livre « L'art de la fausse générosité, la Fondation Bill et Melinda Gates », un livre édité chez Actes Sud. Et à vos côtés, Jean-Marc Gansil, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cofondateur du quartier écolo-alternatif Darwin à Bordeaux et de la foncière La Suite du Monde et auteur également d'un livre tout juste paru « Ne plus se mentir, petit exercice de lucidité par temps d'effondrement écologique », un livre édité aux éditions Rue de l'Échiquier. Bill Gates, est-il vraiment un bienfaiteur ? C'est le thème de notre émission aujourd'hui en partenariat avec la rédaction des pages Planète Science du journal Le Monde, préparée par Anaïs Morales. Avec toujours nos complices Anne Gouzon, Valérie Ernoult, Caroline Chausset, Vanessa Chang, réalisée par Alexandra Malka avec à la technique, aujourd'hui Pierrick Monsigny. Bonjour à tous et bienvenue.
La plupart des aides sont gouvernementales, elles viennent des pays riches. La philanthropie a un rôle bien moindre, mais unique. Elle soutient les scientifiques qui ont des approches originales, dont certaines peuvent paraître trop aventureuses pour être soutenues par l'État, ou qui ne rentrent pas dans les pratiques courantes. Et c'est là que la philanthropie peut intervenir, et souvent avoir un rôle décisif. On l'a bien vu dans la Révolution verte. C'est la philanthropie qui a financé les travaux de l'agronome Norman Borlaug, dont les semences ont plus que doublé le rendement du blé, et évité la famine en augmentant les qualités nutritionnelles des céréales récoltées dans le monde entier. La philanthropie a un effet remarquable, mais elle ne se substitue en aucun cas à l'action des États.
C'était les propos de Bill Gates, invité de l'émission On n'arrête pas l'écho sur France Inter, c'était le 29 octobre 2016. Lionel Astruc, un homme à l'image très positive, celle du riche philanthrope qui œuvre pour le bien de l'humanité.
Oui, en fait, c'est le point de départ qui m'a donné envie de faire le livre. C'est effectivement ce décalage, cet abysse entre l'image qu'a Bill Gates auprès du grand public et la réalité que j'ai découvert d'abord à petite échelle et puis petit à petit à plus grande échelle. Et j'ai fini par comprendre en fait la cohérence qu'il y avait dans cette espèce de grand mécano financier. Mais le même décalage en fait existe entre la première vie de Bill Gates et puis la seconde. Et en fait la cassure qu'il y a entre les deux, c'est le procès que lui a fait le gouvernement américain pour son abus de position dominante. Et finalement, c'est pas tant pour son penchant de générosité qu'il a fait cette fondation, c'est d'abord parce qu'il a vraiment perdu la face devant tout toute l'Amérique dans les médias, etc., et en direct, qu'il a voulu en fait redorer son blason, et c'est à ce moment-là qu'il a créé la fondation. Donc c'est, je pense que c'est utile aussi de, voilà, de connaître un petit peu le terreau historique de cette histoire.
Donc une fondation créée en 2000, avec pour mission de lutter contre la pauvreté, pour la protection de la santé, renforcer l'éducation par l'innovation, promouvoir une agriculture durable, etc.
Oui, alors ça, ce sont effectivement les intentions qui sont affichées. Tout à l'heure, on entendait ce témoignage dans lequel Bill Gates explique qu'il veut lutter contre les inégalités, qu'il entend verser 95% de sa fortune, etc. Je pense que c'est là maintenant, c'est quand même vraiment utile de connaître ce qui se cache derrière ces déclarations. D'abord, c'est une fondation qui ne lutte pas contre les inégalités parce qu'elle ne lutte pas contre les sources des inégalités. Au contraire, elle les alimente. D'abord, c'est une fondation qui donne l'argent des autres, en un sens, parce que Microsoft, qui pourrait finalement, dès le départ, aider les États, ne serait-ce qu'en payant ses impôts, eh ben, est une entreprise championne du détournement fiscal. Et Bill Gates, en fait, le revendique. Ça qui est intéressant aussi de savoir, c'est que dans ce livre, il y a une révélation qui est l'assemblage d'un immense puzzle, mais Bill Gates ne s'en cache pas forcément. Par exemple, il a admis que... il a placé à l'étranger 92,9 milliards de dollars. Ce sont des recettes de son entreprise aux États-Unis et que il ne les rapatrie pas, donc il laisse dans les paradis fiscaux, etc., parce que ça lui ferait faire près de 30 milliards de dollars de pertes. Donc l'évitement fiscal, c'est quelque chose qui est assumé. Mais lorsqu'on sait ensuite que, en réalité, les montants de cet évitement fiscal sont souvent égal, voire supérieur à ce qu'il donne, alors on comprend mieux la technique. Mais ça, ce n'est que, j'allais dire, le rez-de-chaussée de la fusée. Il y a ensuite d'autres étages.
On va décortiquer avec vous le système dans sa globalité. En tout cas, dotation globale de 43,5 milliards de dollars à la fondation, depuis sa fondation, et une action donc dans une centaine de pays. On peut dire que c'est le plus grand mécène au monde.
Oui, c'est d'ailleurs ce qui pose problème. C'est-à-dire que plus c'est gros, plus ça passe. Sa fortune à lui... augmente en réalité, c'est-à-dire qu'il est dans une posture de champion de la générosité qui va se dépouiller au profit des pauvres, etc. En fait, entre 2011 et 2018, sa fortune est passée de 54 milliards à 90 milliards de dollars. Donc, il s'enrichit sans cesse.
Alors, il faut préciser quand même pour nos auditeurs que vous avez mené l'enquête, Lionel Astruc, mais vous avez aussi sollicité Bill Gates et vous l'avez rencontré. Donc, on imagine que vous lui avez posé directement toutes ces questions.
Non, je ne l'ai pas rencontré. Non. En fait, ce livre est un travail collectif, d'abord, que j'ai fait notamment avec Mark Curtis, qui est un journaliste britannique excellent, et avec une ONG qui s'appelle Global Justice Now, et également avec Vandana Shiva. Le rapport qui est le point de départ du livre a effectivement été présenté à la fondation Bill et Melinda Gates. Et donc, on a eu des éléments de réponse, si vous voulez. Ce qui est sûr, c'est qu'aucune des informations qui sont dans ce rapport n'a été contrée ou n'a été...
Contesté.
Ce qui était vraiment surprenant, en fait, dans la réponse, il faut que je rentre un tout petit peu dans les détails, mais c'est vraiment intéressant. En fait, il y a un trust, un fonds de dotation qui est adossé à la fondation. La fondation se sert des dividendes du trust pour faire ses pseudo-dons, hein, dont on verra plus tard que souvent c'en est pas. Bon. Ce fonds de dotation, dans quoi il investit? Il investit dans l'armement, les énergies fossiles, les OGM, la malbouffe, donc ça veut dire c'est Coca, BP, Walmart, McDonald's, etc. Et les dividendes qui sont générés par ces actions sont ensuite donnés à la fondation. La réponse que nous a fait Bill Gates sur ce point-là, ou que nous a fait en tout cas la fondation Bill et Melinda Gates, c'est de dire mais il n'y a pas de lien entre le trust et la fondation. Donc c'est une réponse d'une naïveté inimaginable, mais qui peut-être est sincère. C'est-à-dire que peut-être qu'ils ne voient pas ce problème d'incohérence n'est pas pour eux un problème.
Bon, est-ce que ça veut dire que finalement les dons des Gates confiés à ce fonds d'investissement, eux-mêmes ne sont pas forcément au courant des placements des fonds?
Oh, je pense que si, mais en tout cas, le philanthrocapitalisme fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un principe d'efficacité et le philanthrocapitalisme dont se revendique et dont Bill Gates est un peu le père, son idéal, c'est d'utiliser les techniques du capitalisme pour faire de la philanthropie. Voilà, donc il n'y a aucune remise en question ni du système, ni des inégalités.
On va rentrer plus avant dans tout ce principe-là, bien évidemment en prenant l'agriculture, la santé comme domaine privilégié. Auparavant, je vous propose d'écouter à nouveau Bill Gates et puis bien, parole à Jean-Marc Gansil. Bill Gates, c'était donc le 28 août 2014 dans l'émission La Fabrique du Nouveau Monde. Vous allez voir, effectivement, il nous parle de cette philanthropie.
Vous savez, le monde, de par le monde, il y a beaucoup d'entrepreneurs. Mais si on laisse les enfants dans les pays pauvres être, souffrir de la malnutrition, eh bien ça veut dire que ni leur corps ni leur esprit se développera. Leur productivité sera trop faible pour gagner suffisamment d'argent pour se nourrir eux-mêmes. Donc la santé, l'agriculture productive, l'éducation, ce sont des investissements fondamentaux qu'il faut faire. Et ensuite, vous aurez les capacités humaines nécessaires parce qu'ils seront bien nourris. Et finalement, les entrepreneurs pourront se fonder là-dessus.
Jean-Marc Gansil, une icône qui veut faire le bien, cela doit-il paraître étrange? Dans votre livre, Jean-Marc Gansil, Ne plus se mentir, on sent que pour vous, on fait face à un monde qui lui-même nous montre un jeu de dupes permanent.
Oui, je crois que la description que vient d'en faire Lionel et ce cas très emblématique de la Fondation Gates illustre bien cette espèce de capitalisme de bonne conscience où finalement on ne change pas grand-chose au modèle économique. On continue à être dans une fuite en avant permanente au profit, aux dividendes, à l'usage de ressources, aux pollutions. On ne change qu'à la marge le système avec différents dispositifs. On va dire que le mécénat en est un, la responsabilité sociale d'entreprise en est un autre. Et systématiquement, on fait illusion. On essaye de, on va dire, modifier à la marge les conséquences des actions néfastes que génère l'entreprise, mais on ne remet jamais fondamentalement en cause son moteur. Le marketing est le même, l'exigence de rentabilité et de productivité est la même, l'envie d'expansion et la croissance sont toujours très présentes dans le board des actionnaires, et je dirais même les clients sont un peu complices de tout ça. Et finalement, ça ne change rien, mais on se donne bonne confiance, on fait illusion avec des mécanismes redistributifs qui ne le sont pas tant que ça. Et c'est toute la vertu du livre de Lionel que de le démontrer, preuves à l'appui.
Donc ce que vous dites, c'est que quels que soient les attributs, en tout cas, c'est un système qui perdure et que même si aujourd'hui on dit chacun peut faire sa part, là vous parliez de chacun, chaque citoyen qui pourrait exiger de la banque d'avoir une visibilité sur ce qu'on fait de notre argent, vous dites finalement c'est faux, culpabiliser l'individu évite de condamner le système, c'est ça ?
Absolument, les grandes entreprises, il ne faut pas non plus jeter l'opprobre sur tout le milieu économique. Certaines entreprises, et je le dis dans le livre, font véritablement des efforts, ont des initiatives intéressantes. Mais globalement, le greenwashing règne en maître, toujours, malgré les dénonciations qu'on peut en faire, malgré les grosses ficelles qu'on peut aujourd'hui entrevoir très clairement, le système perdure. Les solutions sont déguisées avec des attributs verts, mais fondamentalement, elles font appel à des ressources qui sont épuisables, elles génèrent des montagnes de déchets qui ne sont pas recyclables, mais on déguise tout ça derrière des concepts comme l'économie circulaire, évidemment, comme l'économie symbiotique, permaculturelle, comme la croissance verte. On essaye d'habiller d'attributs cette croissance qui, malgré tout ce qu'on peut voir, et comme le dit Delphine Bateau récemment, je trouve que sa citation était bonne, finalement la croissance n'est qu'un indicateur de la destruction de la nature.
Mais c'est mieux que rien en même temps, Jean-Marc Gansil. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas ou ces initiatives sur le terrain, ou de permaculture, ou d'économie verte, ou en tout cas tout ce qui est là en gestation, peut-être pas encore suffisant, c'est toujours mieux que rien.
Ah bien sûr, je ne parle pas des initiatives et des alternatives qui sont localement sur le terrain et qui naissent partout, et c'est heureux, il faut les encourager. Je parle des pratiques des entreprises dont la sincérité peut sincèrement être mise en question.
Cette fameuse économie verte, donc à grande échelle, au plus haut niveau, c'est ça, et que vous dénoncez comme une fake news.
Absolument. Je pense que la plus grosse fake news à laquelle nous avons à faire face, c'est celle de la compatibilité fondamentale entre économie et écologie.
Lionel Astruc, réduire nos émissions de gaz à effet de serre, est-ce que c'est une priorité pour Bill Gates ?
Ce qui m'a posé une vraie question, c'était sa sincérité à lui dans sa démarche. Et je pense qu'au fond, il a une démarche qui est sincère. Je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas lui enlever, c'est qu'il est de bonne volonté. Mais quand on investit 1,4 milliard dans les énergies fossiles, et quand on dit que sortir des énergies fossiles, c'est une fausse bonne idée, je pense que vraiment on fait fausse route s'il s'agit de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que je peux rebondir sur ce que disait à l'instant Jean-Marc ? Ce que j'ai beaucoup apprécié dans Ne plus se mentir, et là où j'ai vu un lien en fait avec l'art de la fausse générosité, c'est le fait que Bill Gates en fait alimente cette dissonance cognitive dont parle Jean-Marc au début de son livre. Il est dans cette construction de ce qui pour moi est une fiction, une espèce d'enthousiasme fictif à travers la technologie, etc. Et jusqu'à présent, ce fantasme technologique, pour moi, ça a été le principal outil pour emmener les citoyens sur une fausse route, c'est-à-dire dans la croyance, dans le fait que la technologie allait sauver la planète, qui est quand même une croyance maintenant vieille, qu'on a pourtant battue en brèche dans le concret, enfin dans le réel, mais qui dans les idées est pourtant toujours là, quoi.
Alors écoutons à nouveau Bill Gates sur cette question de la technologie, extrait de l'émission N'arrête pas l'écho du 29 octobre 2016.
L'innovation, oui, c'est complètement crucial. Si on prend le VIH, il nous faut un vaccin anti-sida pour arrêter la progression de la maladie. Pour la malaria, nous pourrons l'éradiquer si nous trouvons les outils adéquats. Et si la vie est en tout point meilleure aujourd'hui qu'il y a, disons, 200 ans, c'est grâce à l'innovation. L'innovation toute seule, ça ne suffit pas. Il faut pouvoir la transmettre et la rendre accessible à tous. Mais elle est la raison de mon optimisme dans les domaines de la santé et du changement climatique.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Jean-Marc Gansil, ces technologies vertes, est-ce qu'elles sont bonnes pour la planète ?
Ah, là encore une autre fake news. Effectivement, nous a vendu la
fake news parce que nos auditeurs souvent nous disent n'utilisez pas des mots anglais, ils ont raison. Donc fausse nouvelle.
Voilà, encore,
et greenwashing, c'est le verdissement écologique.
Absolument. Effectivement, on nous vend les solutions technologiques comme quelque chose qui va nous permettre de résoudre cette équation impossible entre l'usage de ressources et on va dire leurs effets négatifs sur l'environnement. On peut malheureusement constater que on est là face à un mirage et que derrière la dématérialisation, ce sont des montagnes de déchets. Ce sont des circuits imprimés, ce sont des coques en plastique, en métal, ce sont des dizaines de milliers de kilomètres de câbles, des serveurs alimentés par une énergie le plus souvent sale. Et ces montagnes de déchets, finalement, elles sont très peu recyclées. On ne sait pas trop quoi en faire.
Et elles aboutissent souvent en Afrique, je crois.
Exactement, malgré la convention de Bâle de 1966, qui interdit aux pays industrialisés de les envoyer dans les pays du Sud, on va dire. Eh bien, c'est allègrement contourné, on les qualifie de biens d'occasion. Et ces montagnes de déchets qui sont liées à l'obsolescence programmée et à la rapidité de changements technologiques sont envoyées avec, là aussi, de la bonne conscience, hein, pour aider les pays du Sud à se les approprier. Mais ce sont des biens qui sont hors d'usage et qui finissent dans des décharges à ciel ouvert, qui sont démantelées dans des conditions effroyables.
Qui restent polluants en général.
Et qui sont extraordinairement polluants pour les nappes phréatiques, pour les écosystèmes en général.
Et pour la santé.
Voilà, et on parle souvent, effectivement aussi, dans l'édition, on parle de nos deux ouvrages aujourd'hui. Souvent, on nous dit, je vais acheter ton ouvrage en version électronique, je le lirai sur une liseuse. Voilà. Et on a le sentiment qu'on fait une bonne action. Finalement, lorsqu'on sait qu'il faut lire à peu près 100 ouvrages par an pour que le bénéfice écologique d'une liseuse soit amorti, on se rend compte qu'il vaut mieux acheter du bouquin en bon papier.
Lionel Astruc, donc on a compris que pour Bill Gates, la solution pour sauver le monde passe forcément par la technologie. C'est peut-être la raison pour laquelle, justement, en matière de dons pour favoriser l'agriculture de demain, faire en sorte de nourrir tout le monde sur la planète, il soutient plutôt la recherche côté OGM, semences hybrides, produits phytosanitaires.
Oui. Il n'est jamais question dans son discours et dans les documents qu'il produit d'agroécologie ni de semences libres. Et les actions qui sont financées par la Fondation Bill et Melinda Gates, notamment en Afrique, visent à mettre en avant, alors eux ils disent apporter la science aux pauvres, et ils en profitent pour dire aux populations qui prétendent aider, tournez-vous vers les entreprises, vers les grandes entreprises privées, c'est elles qui ont la solution à vos problèmes. Les solutions, donc, pour la Fondation Bill et Melinda Gates, ce sont les OGM, les hybrides, les produits phytosanitaires et l'agriculture intensive poussée le plus loin possible. Comment est-ce qu'ils s'y prennent matériellement pour influencer un continent comme l'Afrique ? Ils pénètrent en fait en force le marché africain en subventionnant, par exemple, les réseaux de petits détaillants, ceux qu'on appelle les agro-distributeurs. Il y en a une multitude en Afrique et 70% quasiment des produits qu'ils vendent sont des produits Monsanto. Et l'évaluation des programmes d'action de la Fondation Bill et Melinda Gates montre, notamment au Malawi, c'est pour le Malawi que j'ai cité ce chiffre, que les ventes ont augmenté de 85% en quelques années grâce donc à l'aide de la Fondation Bill et Melinda Gates. Donc à chaque fois qu'ils peuvent discréditer les semences libres, mettre en avant les OGM, les semences hybrides, ils le font. Et c'est triste parce qu'on est dans un contexte où il y a encore 80% des semences qui viennent des échanges entre les paysans, etc., qui sont de l'autoproduction.
Et sur ce thème-là, sur cette question des semences libres, de l'autonomie, de la résilience des territoires, du savoir-faire local, comment ils réagissent? Qu'est-ce qu'ils répondent? Parce que c'est quand même largement développé dans les études et dans votre livre, Lionel Astruc.
Eux, ils sont dans une croyance totale. Il faut bien comprendre en fait la philosophie de Bill Gates. Et il faut le voir surtout à l'aune de son histoire. La technologie a fait de lui le maître du monde, en quelque sorte. Donc pour lui, c'est vraiment l'alpha et l'oméga. Il ne prend pas la peine en fait de développer un discours contre l'agroécologie. Il se contente de pousser au maximum les OGM en prétendant que ça va sauver le monde, sauver les pays du Sud de la faim, etc.
Donc on est plutôt dans une culture d'entreprise et dans une culture, pourrait-on dire, à l'américaine ?
Oui, c'est ça. C'est ça. Sauf que je pense que aux États-Unis, en tout cas à l'époque de Carnegie ou Rockefeller, qui déjà avaient leur fondation et qui déjà savaient comment utiliser cette philanthropie à leur avantage, il y avait une forme de recul. Et c'est ça, moi, peut-être qui m'inquiète le plus. C'est-à-dire que aujourd'hui, il n'y a plus ce recul. À cette époque-là, les fondations de Carnegie et de Rockefeller, dans les années 50, elles étaient raillées constamment dans les journaux. Parce que les gens n'avaient aucune illusion, en fait, sur l'utilité de ces fondations. Et je trouve qu'aujourd'hui, en fait, on a très, très peu de recul. Et la critique à l'encontre de la fondation Bill et Melinda Gates, regardez autour de vous, faites l'essai, regardez dans les médias, etc. Pour l'instant, c'est très, très mince.
Jean-Marc Gansil, cette philanthropie, alors au-delà de la fondation Gates, est-ce qu'elle existe positivement quand même? Est-ce qu'on a des exemples de personnalités riches et qui font en sorte que leur argent serve quand même sans être dans un système de monde de recherche du profit ou de toute technologie?
Oui, bien sûr. On a en France notamment une organisation qui s'appelle 1% pour la planète, où je crois que la plupart des donateurs le font de façon sincère, avec une forme de désintéressement. Leurs dons n'abondent pas des produits ou des solutions techniques qui, par ricochet, vont leur profiter. Je crois qu'on est là dans un exercice de style qui est relativement pur, si j'ose dire, et qui se préoccupe sincèrement des initiatives qu'ils financent. On peut penser notamment à Patagonia, qui est pourtant une entreprise anglo-saxonne, mais qui consacre des sommes très significatives à des enjeux écologiques, et qui d'ailleurs pilote son entreprise à l'aune de ces enjeux-là. Donc on est dans une forme de cohérence totale. Et effectivement, en symétrie, la cohérence est aussi très forte hein, chez Bill Gates avec sa fondation. Finalement, c'est une espèce de dogme qu'ils suivent. On va dire que je préfère l'autre, celui de Patagonia, où il y a une vraie sincérité dans l'affectation du don et dans l'autonomie laissée aux bénéficiaires pour conduire leur projet comme ils l'entendent. Donc, on a des exemples comme ça. Il y a également Léa Nature, notamment à La Rochelle, qui fait des choses assez conséquentes en reversant une part très significative de leur chiffre d'affaires et non pas simplement de leurs bénéfices. On a là des efforts qu'il faut saluer et il y en a beaucoup d'autres comme ça, y compris de petits entrepreneurs locaux dans nos territoires, dans les villes. Il n'y a pas que des grandes fondations, il y a aussi des entrepreneurs qui sincèrement s'interrogent sur le sens qu'ils vont donner à leur action et ont une vraie volonté de pousser des alternatives positives pour les territoires qui vont dans le sens de la résilience. Il faut le saluer et il ne faut pas non plus avoir une vision très caricaturale de cette question.
Donc pas être trop pessimiste, la collapsologie dans le vrai, mais... On sent qu'il peut y avoir quand même du bon qui sort ou qui émerge.
Je pense que tout le monde s'interroge. Enfin, la vertu d'un ouvrage comme celui de Lionel, par exemple, c'est de mettre à jour ces mécanismes. Et ils sont de moins en moins cachés. On se rend compte maintenant de ces subterfuges. On comprend quelles sont leurs intentions. On mesure aussi l'espèce de bulle dans laquelle gravite une certaine élite mondialisée qui est dans une croyance totale dans la technologie, indépendamment de tous les arguments qu'on peut opposer, qui sont factuels aujourd'hui. Cette espèce de fuite en avant qui est assez effroyable. brillante. On la voit d'autant plus qu'elle se renforce par un effet d'entre-soi, de copinage, entre d'ailleurs cette élite économique et une certaine élite politique. C'est ça qui est assez effrayant, parce qu'il y a une surpuissance de ces modes d'action qui sont relayés par également des médias, parfois, et qui façonnent l'opinion dans un sens où, comme le disait Lionel, elle ne fait plus l'objet de critiques tellement elle est massive. C'est présenté comme quelque chose d'extraordinairement positif, il n'y a pas grand-chose à dire. Le regard critique, finalement, ne s'exerce plus. Voilà, c'est ça qui est un peu effrayant lorsqu'on questionne notre entourage, notamment sur ce que fait Bill Gates. Généralement, tout le monde adhère. C'est beaucoup plus complexe que ça. Voilà. Maintenant, je crois qu'il y a des failles. On commence à voir vers où mènent ces stratégies. On commence à voir les affinités qu'il y a entre des intérêts économiques et politiques. On commence à avoir les conséquences néfastes de ces stratégies massives. Et la population, qu'elle soit dans la sphère économique, citoyenne, associative, on ne le lui fait plus. Elle a envie de réagir et elle commence à se mobiliser, je trouve, dans le bon sens.
Lionel Astruc, une réaction ?
Oui, pour suivre sur ce que dit Jean-Marc, la population a envie de se mobiliser et je crois que la vertu de ne plus se mentir de son livre, c'est justement de montrer que cette mobilisation citoyenne, cette éco-citoyenneté, elle est nécessaire, mais face à des adversaires, si j'ose dire, comme la Fondation Bill et Melinda Gates, c'est insuffisant. Le niveau d'action auquel on se trouve aujourd'hui, effectivement, les petits gestes, les initiatives, etc., elles sont bonnes, faut absolument pas arrêter, au contraire, il faut continuer. Mais par contre, ne plus se mentir, en fait, a mis des mots sur quelque chose que je percevais, mais que je n'avais peut-être pas aussi bien quantifié et formalisé. C'est sur cette différence d'échelle entre ce qu'on peut faire dans nos initiatives, dans notre quotidien, et l'échelle du problème, et l'échelle aussi des acteurs, de ces 26 personnes qui possèdent la moitié des richesses de la Terre et dont fait partie Bill Gates. Et c'est vrai qu'à cet égard, il faut qu'on change d'échelle dans le combat et qu'effectivement, on décrypte le fonctionnement d'organisations comme la Fondation Bill et Melinda Gates.
Alors justement, revenons à Bill Gates, homme puissant. En ce qui concerne l'agriculture, donc sa fondation a dépensé à ce jour 2 milliards de dollars en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud. Concrètement, quelle est son influence en haut lieu? C'est-à-dire, sur qui s'appuie-t-il sur le terrain? Il s'appuie quand même sur des grosses organisations, on imagine.
Oui, alors il va droit au but. Il y a une filiale de la Fondation Bill et Melinda Gates qui s'appelle l'AGRA, l'Alliance pour une agriculture verte en Afrique. Cette organisation, en fait, elle va influencer directement les gouvernements pour qu'ils changent leur réglementation, pour qu'ils facilitent l'arrivée des OGM et des hybrides et que, du même coup, ils défavorisent en fait les semences libres. Mais vous entendrez toujours Melinda Gates dire, par exemple, qu'elle est très favorable, qu'il n'y a aucun problème avec les semences libres. Sauf qu'en réalité, mécaniquement, en fait, le système de brevetage et de catalogue qu'ils mettent en avant va marginaliser, en fait, les semences libres. Donc, il y a cette action, en fait, auprès des gouvernements. Ensuite, il y a une action de financement, mais qui est tellement, tellement puissante qu'on ne peut pas y résister. C'est-à-dire que quand les OGM ne fonctionnent pas, si vous rajoutez des milliards pour refaire des essais, en redistribuer, etc., il y a un moment donné où les gens peuvent plus faire marche arrière et où ça finit par fonctionner. Donc il y a une action de lobbying qui est très forte. Et vous savez, je pense qu'il y a une chose quand même qui est très emblématique justement de l'action de la Fondation Bill et Melinda Gates dans le domaine de l'agriculture, c'est le responsable de l'amélioration de l'agriculture, hein, qui est Rob Hirsch, c'est-à-dire un ancien de chez Monsanto, quoi. Donc les liens sont là
et... Et vous parlez aussi dans votre livre, Lionel Astruc, du GCRAI, le groupe consultatif pour la recherche agricole internationale, un consortium de 15 centres de recherche influents dans les pays en développement. Vous parlez aussi de Cargill, le géant américain pour le marché du soja, la fondation mondiale du cacao, Bayer. Enfin voilà, ce sont véritablement ces géants-là qui entourent la fondation Bill Gates, ou en tout cas qui travaillent avec eux sur le terrain.
Oui, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que, comme je décrivais tout à l'heure, il y a un trust, un fonds de dotation qui est adossé à la fondation et qui finance la fondation. Et en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que les entreprises qui sont dans le portefeuille de ce trust, pour beaucoup d'entre elles, tirent les profits de ce que donne la fondation. Je vous donne un exemple avec une entreprise que tout le monde connaît, Coca-Cola. Le trust de la fondation Bill et Melinda Gates possédait 538 millions d'actions chez Coca-Cola. Et dans le même temps, la fondation finançait des programmes pour que des communautés dans les pays du Sud deviennent des filiales de Coca-Cola, finançait également des programmes pour former les agriculteurs pour qu'ils produisent des fruits de la passion qui étaient directement destinés à Coca-Cola, 50 000 agriculteurs formés. Donc c'est un conflit d'intérêts à la fois ponctuel dans donc l'alimentation, comme je viens de le dire, mais aussi le secteur pharmaceutique, le secteur agricole. Donc c'est à la fois des conflits d'intérêts, je dirais, vraiment factuels et vérifiables, quantifiables, mais pour moi c'est aussi un conflit d'intérêts à grande échelle, quoi, finalement.
Et sur le thème de la santé, sur ce secteur-là, nous allons en parler dans un instant. Nous allons à nouveau écouter la voix de Bill Gates, ses propos concernant les maladies, la malaria notamment. C'était dans l'émission N'arrête pas l'écho sur France Inter le 29 octobre 2016.
Moi, j'ai fait le choix de dépenser mon argent contre la malaria, le sida et la polio. Quand nous nous sommes impliqués, la malaria décimait 1 million d'enfants par an. Aujourd'hui, on en est à 500 000. J'ai un but, c'est que de mon vivant, on éradique la malaria, même si ça prend encore 20 ans ou 30 ans avant d'y arriver. Alors, je vous l'accorde, c'est une mauvaise nouvelle pour la malaria. Autrement dit, il y a des gens qui achètent des tableaux, des gens qui se construisent des résidences ou d'autres choses. Si nous allons faire de plus en plus de progrès contre la malaria, c'est parce que nous avons choisi d'agir dans ce sens. Il n'y a rien de politique là-dedans. C'est une question de point de vue moral. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le monde ?
Lionel Astruc, une réaction. Alors, il faut aussi préciser que la Fondation Bill et Melinda Gates a donné notamment donc 1,4 milliard de dollars au Fonds mondial de lutte contre le sida, contre la tuberculose, contre le paludisme. Voilà, toujours beaucoup, beaucoup d'argent, censé aider quand même sur ce terrain-là. Est-ce que sur ce terrain-là, ils sont un peu plus vertueux ?
J'ai peur que non. Mais attention, je mets une petite réserve. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt, mais il y a quand même des actions qui ont servi.
C'est positif, quand
même. Indéniable. Bon. C'est indéniable. Il fait partie des gens qui sont parvenus à éradiquer la polio. Même si ça entraîne des problèmes, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça a entraîné aussi des gros problèmes dans les pays qui ont accueilli les campagnes. Mais en ce qui concerne le paludisme, le problème, c'est que la Fondation Bill et Melinda Gates est tellement puissante et qu'elle a une énorme influence à l'OMS. Et il y avait deux solutions pour le paludisme. La première, qui est une plante, l'artémisia, qui sous forme de tisane, et maintenant c'est prouvé, il y a des recherches, il y a des résultats qui sont absolument solides et qui montrent que c'est largement aussi efficace que le vaccin. Mais qu'a choisi de financer la Fondation Bill et Melinda Gates ? Le vaccin. Donc les recherches n'ont pas été faites sur l'artémisia, les recherches ont été faites sur le vaccin. Et on est toujours donc dans ce conflit d'intérêts, à savoir qu'il y a, enfin là on n'est pas dans un conflit direct d'intérêts, mais en tout cas la Fondation Bill et Melinda Gates favorise les maladies, ça c'est pas moi qui le dis, c'est le Lancet quand même, un journal scientifique britannique. La Fondation Bill et Melinda Gates favorise les maladies qui peuvent favoriser la diffusion de vaccins. Et là, en l'occurrence, l'OMS a carrément interdit l'utilisation de cette plante, l'artémisine, pour soigner le palud. Donc, on peut donner...
Soupçon de collusion, c'est ce que vous dites ? Avec l'OMS ?
Alors ça, oui, ça c'est certain. C'est-à-dire que quand vous donnez autant d'argent à une organisation, vous finissez à un moment donné, directement ou non, par lui dicter ce qu'elle doit faire. En l'occurrence, le minimum, ça aurait été d'investir autant dans la recherche pour l'artémisine que dans la recherche pour le vaccin. C'est pas ce qui a été fait.
C'est pas les mêmes marchés, on imagine, pharmaceutiques,
non,
c'est ça ?
Non, il y en a un, vous le faites pousser dans votre jardin, et l'autre, il passe par une multinationale. Et Bill Gates croit dans l'entreprise, la multinationale, etc.
Jean-Marc Gansil.
Oui, ce qui est vertigineux, c'est la surpuissance de cet acteur avec ces milliards qui sont déversés sur des institutions internationales, parfois avec l'accord des gouvernements. Il y a une forme de collusion, hein, comme le disait Lionel. Et finalement, où est le contrôle démocratique ? On a une forme de privatisation de la santé, comme on l'a de certaines infrastructures, de l'agriculture dans d'autres pays. Et quelque part, c'est le pouvoir tentaculaire de ces multinationales qui s'étend en dépit de tout contrôle démocratique et souvent à l'encontre des intérêts aujourd'hui évidents qu'auraient des alternatives à ces solutions technologiques ou autres. Il n'y a même plus débat. Ce n'est plus la démocratie qui décide, mais ces grands bailleurs de fonds privés qui décident finalement de la pluie et du beau temps sur des secteurs qui sont déterminants pour notre avenir.
Lionel Astruc, est-ce que vous savez si les études qui ont été publiées, vous avez signalé l'étude dans la, publiée par Lancet, vos livres, tout ce qui sort et qui a dû arriver jusqu'aux oreilles de Bill et Melinda Gates, est-ce que tout cela ne les a pas fait changer d'avis ou ne les a pas interpellés, au moins, ou sensibilisés, peut-être sur une autre vision? Parce que on ne sait pas, au fond, si, comme on disait, ce n'est pas du terrain ou du ressort d'une culture aussi, d'entrepreneurs, d'une culture américaine qui veut ça, qui veut cette façon aussi d'investir l'argent sur le terrain. Est-ce qu'il n'y a pas un espoir qu'il y ait peut-être une autre vision pour eux du monde à terme?
J'ai peur que non. Ça me désespère un peu. J'ai eu des réactions au livre qui me disaient, mais au lieu de dresser des murs, dresser des ponts, essayer de les convaincre, etc. Moi, j'ai eu vent de conversations dans des réunions, etc. On n'en est pas du tout à une remise en question et à une prise de conscience. Et au contraire, on est dans une forme de lobbying. Enfin, pour moi, c'est même au-delà du lobbying, en fait, c'est le philanthrocapitalisme, parce que c'est du lobbying encore caché, quoi, qui ne dit pas son nom, même si le lobbying est souvent caché. Mais alors là, vraiment, il est caché derrière un masque incroyable qui est la générosité. Mais pour l'instant, moi, ce que je vois, c'est l'omniprésence. C'est-à-dire que vous pouvez pas mettre le pied dans une institution, dans un lieu stratégique ou chez une personne un peu leader d'opinion sans qu'elle ait été, à un moment donné ou à un autre, approchée, influencée par la fondation Bill et Melinda Gates.
Reconnaissons peut-être quand même, Lionel Astruc, à la Fondation d'avoir œuvré pour l'émancipation des femmes, l'éducation des jeunes filles, l'égalité des sexes.
Ouais, j'ai consacré un petit passage du livre au combat, j'allais dire juste, de la Fondation Bill et Melinda Gates, d'autant que je ne suis pas du tout dans une attaque ou une diabolisation du personnage. Ce n'est pas le propos du livre.
Jean-Marc Gansil.
Oui, il faut se garder de tout aspect binaire sur ces questions qui sont forcément complexes. Mais ce que je voulais juste ajouter, c'est que souvent on a le sentiment que ce que décrit Lionel, cette élite mondialisée qui s'accorde sur un certain nombre de politiques qui sont parfois un peu effrayantes, restent à ce niveau-là, et c'est déjà suffisamment inquiétant. Mais ce qu'on peut constater, c'est que, malgré ce qu'on peut croire, c'est que sur les territoires, dans les grandes métropoles, ces liens existent également entre les groupes privés et les acteurs locaux et les élus locaux. Et que finalement, ces petits arrangements, ces petites faveurs, cet entre-soi, ils se retrouvent à cette échelle. Et souvent, on a tendance à idéaliser ce qui se passe au plus près du terrain. On serait plus conscient des réalités, les élus seraient plus à l'écoute de leurs administrés. Je crains que ce soit également un fantasme et que souvent, ces logiques d'influence et de lobby, elles soient exactement les mêmes, dans une échelle à une proportion différente, mais qu'elles aient les mêmes effets et qu'elles empêchent toute alternative de germer comme elles le pourraient.
Partout, en France notamment?
Je n'en sais rien. En tout cas, de ce que j'ai pu vivre à Bordeaux, où j'étais, je peux l'affirmer.
On arrive, messieurs, au choix musical. Donc, vos deux propositions sont à retrouver sur le site de l'émission, bien sûr, franceculture.fr, rubrique de cause à effet. Lionel Astruc, votre choix premier, donc, c'est John Parrish?
Oui. Sorry for your loss. C'est un musicien que j'ai découvert dans un festival formidable qui s'appelle Mince Alors, dans le Trièves, et c'est magnifique.
I'm sorry for your loss of soul and hope. You find a better ride, American saddlebred. Moe's a goosey, Comet tail, a faithful dog, a yard sale. I'm sorry for your loss of will to keep the fire burning still. And the sun never felt colder. Just passed over.
Et c'est la suite de notre émission De cause à effet sur France Culture, consacrée aujourd'hui au plus grand donateur planétaire, devenu une icône de la générosité, Bill Gates, dont le philanthrocapitalisme fait l'objet de controverses, et d'un livre paru chez Actes Sud, L'art de la fausse générosité. La fondation Bill et Melinda Gates, écrit par Lionel Astruc, avec nous aujourd'hui, et également avec nous Jean-Marc Gansil, cofondateur du quartier écolo-alternatif Darwin à Bordeaux, et de la foncière La Suite du Monde, également auteur du livre Ne plus se mentir, petit exercice de lucidité par temps d'effondrement écologique, livre paru aux éditions Rue de l'Échiquier. Suite de nos échanges fructueux, bien sûr, ensemble messieurs, ce sera juste après notre revue d'info environnement. Et parmi les nouvelles glanées cette semaine sur le front de l'environnement, on apprend que l'Europe veut protéger les lanceurs d'alerte avec un texte en discussion et qui imposerait aux 28 États membres la mise en place d'un cadre juridique spécifique qui mettrait à l'abri de représailles, de pression ou de harcèlement judiciaire ces citoyens qui détiennent des informations concernant des activités illicites, fraude, corruption ou des actes pouvant causer un préjudice grave à l'intérêt public. Ce texte offrirait aussi aux alerteurs la liberté de divulguer leurs informations à une source appropriée, selon leur situation propre, donc soit en interne, soit une autorité extérieure compétente, soit au public. Or la France, soutenue par l'Autriche et la Hongrie, a jusque-là défendu l'obligation d'informer d'abord sa hiérarchie en interne. On pense bien évidemment à Irène Frachon dans l'affaire du Mediator, au LuxLeaks ou encore aux Panama Papers. Dispositif et décision finale à suivre avec beaucoup d'attention, c'est à lire, en tout cas pour le début de cette affaire, dans l'article signé Stéphane Aurel sur lemonde.fr. Autre information importante, cette victoire posthume remportée par un arboriculteur dont la maladie de Parkinson a été reconnue professionnelle. Marcel Gesselin, mort en 2018 à 74 ans, a été employé pendant 37 ans dans la même entreprise arboricole à Loiret, à l'ouest d'Angers, exposé au traitement régulier des arbres fruitiers. La reconnaissance par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Maine-et-Loire de l'origine professionnelle de sa maladie devrait faire évoluer la législation sur les maladies professionnelles liées aux produits phytosanitaires, a commenté son frère Michel, qui a mené ce combat administratif afin, dit-il, que ce qui est arrivé à mon frère n'arrive plus jamais. À l'échelle nationale, il n'existe aucune donnée statistique publique sur les maladies professionnelles liées aux produits phytosanitaires. Toute cette histoire est à découvrir sur le site de l'AFP. Qui remporte la palme du moins de notre sélection? L'augmentation des émissions de gaz à effet de serre qui pourrait faire disparaître une couche protectrice de nuages, les stratocumulus. Selon une étude publiée dans la revue Nature Géosciences, la disparition de ces nuages entraînerait une augmentation de la température terrestre de 8 degrés supplémentaires par rapport au réchauffement climatique déjà en cours. Et bien sûr, on l'imagine, des conséquences en cascade. C'est à découvrir sur le site Novetic. Et le plus de la semaine revient à la journée mondiale du recyclage qui aura lieu lundi 18 mars. À cette occasion, une centaine de photos d'influenceurs seront détournées afin d'alerter le grand public sur la nécessité de recycler. Selon la Fédération des entreprises du recyclage, un Français produit en moyenne 501 kg de déchets par an et moins de 40% sont recyclés.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Est-ce que vous voulez réagir, messieurs, à l'une de ces informations de la semaine ?
Jean-Marc Gansil. Écoutez, c'est une bonne nouvelle pour les lanceurs d'alerte. En tout cas, ça semble aller dans le bon sens. Moi, je termine mon ouvrage avec un chapitre qui s'appelle « Nous n'aurons plus besoin d'espoir, mais de courage ». Et je crois qu'il faut vraiment tirer notre chapeau à tous ceux qui risquent gros à dénoncer des méfaits, des collusions, des problématiques auxquelles ils sont confrontés et qui sont néfastes pour nous tous. Beaucoup, ils perdent beaucoup dans ces combats-là, et tout ce qui peut contribuer à les protéger davantage est bon à prendre, donc il faudra surveiller ça de près.
Lionel Astruc ?
Simplement sur la question du recyclage, on ne dit pas assez que quand même l'idéal c'est de réutiliser plutôt que de recycler, et je trouve qu'il y a une sorte de sentiment de que finalement si on recycle, bah c'est comme si on n'avait pas consommé quoi. Moi-même j'essaie d'y faire attention parce que voilà, il y a le tri des déchets, on est tenté de penser que ce qu'on met dans la bonne poubelle, bah finalement on l'a pas consommé. En fait si, et ça consomme beaucoup d'énergie de recycler, donc il faut pas que ça nous empêche de faire d'autres efforts quoi.
Oui, sur ce sujet, je rebondis sur ce que dit Lionel. Vous l'avez peut-être vu également, ça aurait pu figurer dans votre revue de presse, mais Le Monde Diplomatique a sorti un très bel article sur les stratégies des grandes multinationales, et notamment les histoires de Coca-Cola, qui avaient des politiques très avancées de consignes, mais qui lui coûtaient très cher. Il a préféré opter pour du plastique et reporter la responsabilité sur le consommateur, à qui on renvoie des injonctions permanentes au recyclage, on lui renvoie la responsabilité, alors que tout a été organisé pour faire en sorte qu'il porte le chapeau, alors que c'est l'industrie derrière qui en profite.
Alors, on poursuit, messieurs, sur la fondation Bill et Melinda Gates. Concrètement, Lionel Astruc, on le disait au début de l'émission, il y a donc une stratégie aussi d'évitement, évitement fiscaux. Finalement, ces dons, s'ils permettent cela, est-ce que ce n'est pas de bonne guerre ?
Bah, on est quand même en démocratie et je pense que quand de telles actions sont entreprises, il faut qu'elles aient l'aval des citoyens. Et là, on parle quand même d'une fondation qui est plus puissante que beaucoup, beaucoup de pays, qui est un énorme donateur et qui a effectivement un pouvoir d'action qui est, encore une fois, bien plus important que beaucoup de pays. Donc, pour moi, la moindre des choses, c'est qu'il y a un contrôle, soit un contrôle étatique, soit un contrôle citoyen. Mais, encore une fois, c'est la moindre des choses. Et si on va vraiment à la source du problème, le vrai, vrai problème, c'est l'accumulation de richesses. Ça ne devrait pas être possible de concentrer autant de richesses au même endroit et sur la même personne. Comment ça se fait qu'une seule personne puisse accomplir ses lubies à travers le monde sans contrôle citoyen? Et ce qui m'a intéressé aussi dans le livre de Jean-Marc Gansil, Ne plus mentir, c'est cette partie sur le contrôle autoritaire par quelques super technocrates, le techno-solutionnisme, donc solution technologique à tout va et comme solution, comme alpha et oméga de la transition écologique. Pour moi, il y a un vrai danger et c'est pas un fantasme. Je veux dire, pour l'instant, les inégalités se creusent, il y a de plus en plus de milliardaires. Qu'est-ce qu'ils font maintenant via des fondations? C'est la grande mode, hein, les fondations. C'est devenu en fait un peu le signe extérieur de richesse de ces ultra-riches. On n'achète plus une villa ou une grosse voiture ou quoi, on se paye une fondation. Et qu'est-ce qu'on fait en fait avec cette fondation? On s'achète du pouvoir. Donc si les États s'affaiblissent, que ces fondations petit à petit deviennent de plus en plus fortes, et là on est déjà allé quand même très loin, eh bien on a un problème de démocratie et on va être, comme l'explique Jean-Marc, à un moment donné, contrôlé par des super technocrates, quoi. Je crois qu'on n'a pas besoin de ça.
On s'achète du pouvoir et une bonne conscience, c'est ce que vous laissez entendre, hein, oui. Lionel Astruc. Jean-Marc Gansil, sur cette question-là, on va quand même préciser, même si on l'a peut-être déjà dit depuis le début de l'émission, on vous fait comprendre, un philanthrocapitalisme donc, qui existe et qui permettrait à 1% de la population mondiale, qui possède déjà 48% des richesses de la planète, de consolider un système qui les a fait.
Absolument. On est là dans ce risque que pointe Lionel d'un surcroît de pouvoir de ces multinationales qui soient libres de tout contrôle citoyen et qui s'exercent au bon vouloir de ceux qui le pilotent. On voit déjà la fortune colossale de Jeff Bezos, ses délires également scientistes, techno-solutionnistes, cette volonté de s'affranchir des limites physiques de la planète, hein. Lui, il a un discours hallucinant là-dessus. Il ne veut pas se serrer la ceinture. Il est dans le déni de la finitude d'un certain nombre de ressources. Il est dans la volonté d'aller sur Mars. Hein. Il s'en cache pas. Aller terraformer d'autres planètes alors qu'on n'arrive même pas à maintenir la vie sur la nôtre. Bon, voilà, c'est des délires qui sont sidérants pour nous et qui, malheureusement, constituent finalement la norme, j'ai l'impression, dans ces grands leaders mondiaux qui se connaissent tous et qui partagent un même dogme. Et c'est face à cette surpuissance tentaculaire qui arrive à s'arroger les grâces d'un certain nombre d'États, c'est face à ça que, finalement, nos petits gestes, nos petits pas paraissent bien dérisoires. Et que on peut être face à l'inefficacité complètement démunie. Et c'est la raison pour laquelle je pose la question de la radicalité. Jusqu'à quand tolérerons-nous les bras ballants, cette fuite en avant qui va tous nous nuire collectivement? Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai pas la solution, comme personne d'ailleurs. On voit tous les limites de celles qu'on esquisse. Mais on s'est réfugié derrière une certaine forme de bonne conscience avec la conviction que finalement on allait justement toucher la conscience de ses dirigeants, qu'on allait avoir suffisamment d'influence sur nos gouvernants pour faire plier ces leaders mondiaux. Il n'en est rien. Donc on est aujourd'hui au pied du mur. Et se pose à nous un certain nombre de questions très difficiles sur la radicalité, sur l'usage de la menace physique, même parfois, pour tenir tête à ces puissances qui sont colossales. Ce sont, je crois, les débats qui sont devant nous.
Ce que vous dites, Jean-Marc Gancil, c'est que finalement, les manifestations, les mouvements citoyens, les pétitions, et même peut-être les actions en justice, hein, comme l'affaire du siècle, ce n'est pas suffisant. Il faut penser radicalité, donc peut-être action violente.
Mais c'est un constat en tout cas, qu'effectivement tout ce qu'on a fait par les voies constructives, démocratiques, en rencontrant nos élus, en poussant des alternatives, en discutant, en marchant pacifiquement, tout ça montre ses limites. Et effectivement, face à ce constat, on a dernier recours qui est le recours juridique, et on voit bien à quel point il est un petit peu balayé du revers de la main par Françoise Rugy récemment.
Même si ça a fonctionné dans d'autres pays.
Oui, alors on pourra en débattre, hein, parce que c'est pas toujours des succès, autant que les médias le rapportent. Mais en tout cas, on est face à une limite. Et effectivement, sans faire évidemment un appel à la violence que personne ne souhaite, on peut se demander jusqu'à quel point il faut laisser faire. Et on voit que lorsqu'il y a une menace physique face à cette volonté de puissance, il y a parfois des reculs. Et ça encourage finalement l'envie de s'interposer, l'envie de bloquer, l'envie de désobéir, l'envie d'être dans une forme d'illégalité intelligente, pas dans du cassage testostéroné qui n'a aucun intérêt, mais dans la volonté de bloquer un système mortifère qui, si rien ne s'y oppose, ira jusqu'à l'excès. Et nous condamnera tous. Donc je crois qu'on en est tous un peu là, à s'interroger sur les moyens d'action et à peut-être réaliser que le dogme pacifiste donne une super posture morale de supériorité, mais finalement est relativement inefficace.
Donc ce que vous dites, c'est que l'argent et le pouvoir pourraient quelque part menacer la démocratie. Je vous propose d'écouter sur ce thème-là Bill Gates, justement.
Le rôle de notre fondation dans son soutien à l'innovation scientifique est très différent de celui de l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS est un partenaire essentiel pour nous. Son action est très efficace quand surgit une épidémie comme Ebola ou Zika. C'est elle qui coordonne l'action de tous les États. Des représentants de chaque pays y siègent et décident des priorités dans son action en faveur de la santé dans le monde. Nous finançons par exemple l'éradication de la polio dans laquelle l'OMS est notre partenaire absolu. Sans leur travail, nous ne serions pas si avancés. Nous ne suppléons pas aux fonctions gouvernementales.
Il y en a des trucs sur ce thème-là. Donc Bill Gates dit on ne remplace pas les États et même si on a une influence, on n'est pas là pour faire en sorte de contourner des systèmes publics.
On voit que c'est faux, hein, tout simplement. Et il fait bien de parler de l'OMS parce que c'est justement, il sait de quoi il parle, c'est à travers l'OMS qu'il arrive justement à mettre en œuvre, à imposer ses vues avec l'exemple du PALU que j'ai cité tout à l'heure. Et au-delà de cet aspect effectivement démocratique qui est déjà un problème, il y a effectivement aussi un problème de conflit d'intérêts dans la mesure où on sait que parfois, dans la même période, le trust de la fondation Bill et Melinda Gates détient des parts d'un grand laboratoire pharmaceutique et fait appel à ses solutions médicamenteuses via la fondation. Donc, ce que la fondation donne d'une main, elle le reprend d'une autre. Donc, je pense qu'il contourne les États, il le sait, et ce qui montre qu'il le sait, c'est justement, et ce qui montre la cohérence implacable, comme disait tout à l'heure Jean-Marc, de ce système, c'est qu'il est contre l'impôt. Lorsque le G20 présente des solutions pour empêcher les ultra-riches d'échapper à l'impôt, il fait partie de ceux qui s'y opposent à travers le lobbying le plus farouche, quoi. Donc, c'est logique. Et quand il dit qu'il ne veut pas contourner les États, on le voit d'ailleurs, il le dit une forme de douceur, mais si, il contourne les États et c'est délibéré.
Et alors, vous dites aussi que la Fondation achète le silence des universitaires, des ONG et des médias.
Je le dis pas comme ça, parce que si j'avais sous la main un exemple concret de censure directe, je le citerais bien volontiers, mais j'en ai pas. En revanche, ce que dit encore une fois le Lancet, donc ce journal, cette revue scientifique britannique, c'est que c'est plus un constat. Et ce constat, c'est que parfois, Le journaliste qui a écrit l'article a été formé par un institut financé par la Fondation Bill et Melinda Gates. La revue elle-même est financée aussi. L'expérimentation a été financée elle aussi, etc. Et qu'en fait, parfois, dans une même information, on s'aperçoit que la Fondation est là à tous les niveaux.
Donc on soupçonne du conflit d'intérêts.
Bien sûr. Et à la fois, on se doute que beaucoup d'organisations, et c'est pour ça que cette information, elle met du temps à remonter sur l'organisation et sur ce mécano que je décris dans le livre, sur cette fausse générosité. Pourquoi est-ce qu'elle met du temps à remonter? C'est parce que il y a plein de gens qui s'auto-censurent aussi. Parce que, directement ou non, ils profitent des financements et donc ils ont du mal ensuite à raconter la réalité, quoi.
Mais alors la Fondation produit quand même des études, des évaluations. À qui doit-elle rendre des comptes?
À personne. Je crois qu'ils doivent se rendre des comptes entre eux, entre Warren Buffett, Melinda Gates et Bill Gates. Il y a un conseil d'administration. Il y a une grande opacité de la Fondation Bill et Melinda Gates. Enfin, ce qui est assez symbolique de cette opacité, c'est d'abord que sur leur site, pour la plupart des actions, vous avez une ou deux lignes d'explication de ce qu'ils font, très peu de détails, et qu'ensuite, par exemple, sur la page d'accueil de la partie qui traite l'aspect agricole, il n'y a rien sur les OGM. Alors que c'est leur action phare. Mais bon, c'est une logique d'opacité.
Jean-Marc Gancil.
Oui, je voulais rebondir là-dessus pour parler des ONG et notamment des liens de plus en plus forts qui existent entre certaines ONG et leurs financeurs. Le pouvoir financier d'un certain nombre d'entreprises qui collaborent avec ces ONG sous couvert d'indépendance et de non-ingérence génère à peu près la même chose. C'est-à-dire que ça affaiblit finalement le pouvoir de contestation de ces ONG. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que elles sont beaucoup moins virulentes, elles ont un message beaucoup moins politique, car elles sont souvent pieds et poings liés avec ces financeurs. Et on a de plus en plus besoin, je pense, de renouveler l'activisme, de renouveler la façon dont les ONG travaillent, en garantissant cette indépendance et en étant beaucoup plus agressif sur le terrain. Je citerai volontiers, évidemment, une ONG qui m'est chère, qui s'appelle Sea Shepherd, que tout le monde connaît aujourd'hui.
Et Paul, ce
que
je trouve, Paul Watson, Damien Essendali
en France, qui effectivement s'affranchit de ce soutien des entreprises, qui revendique un message que je dirais pas violent, mais qui est agressif, combatif en tout cas, physiquement, et qui obtient des résultats. C'est eux qui ont réussi finalement, même si on peut l'interpréter d'une autre façon, mais qui a réussi à repousser le Japon finalement de l'hémisphère sud grâce à son action d'harcèlement des navires japonais dans la chasse à la baleine. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que les États, pour faire face à certains industriels de la pêche et à leur rapacité, font appel à des activistes comme Sea Shepherd pour les aider dans leur combat. Ça, je trouve que c'est une nouvelle façon de faire qui suscite pour le coup de l'espoir.
Lionel Astruc, face à ce philanthro-capitalisme, il faut imaginer d'autres contre-pouvoirs?
Oui, je crois beaucoup, et ça, en passant du temps avec Vandana Shiva et avec son organisation Navdanya, j'ai pu voir à quel point on peut aller loin sans moyens. Ça, c'est fascinant. C'est quelque chose que j'avais vu dans l'histoire des villes en transition de Rob Hopkins, qui m'avait raconté donc l'histoire de différentes villes en transition, qui est une histoire vraiment extraordinaire, de villes qui se mobilisent pour d'ores et déjà s'affranchir du pétrole, etc. Et qui me disait, mais parfois, l'argent éteint complètement l'énergie qu'il y a dans une ONG. Et je pense qu'il y a une énergie humaine qu'on peut avoir avec l'économie de moyens et qui se perd lorsqu'on en a trop. Donc, bien sûr, on a besoin d'un peu de moyens, c'est évident, mais l'argent peut aussi noyer cette énergie vitale, quoi.
Oui, parce que comme vous le dites, et l'un et l'autre quand même dans vos livres, c'est qu'on est quand même plus fort tous ensemble.
La fraternité est essentielle pour faire face aux défis qui sont les nôtres aujourd'hui. Et ça,
y compris les riches dans tout ça, quoi.
Ben justement, les riches sont coupés de cette réalité. Mmh. Là, ce qui est quand même emblématique dans la Fondation Bill et Melinda Gates, c'est qu'il n'y a aucun fonctionnement collectif, aucune collégialité, et que c'est un fonctionnement qui est très unilatéral, même si c'est un peu masqué. On a quand même une personne qui gère, quoi.
Jean-Marc Gancil, alors ne plus faire de compromis avec notre conscience, bannir les bons sentiments. Je vous cite dans le texte, retrouver la lucidité, l'honnêteté, la justice, la dignité, la responsabilité, la fraternité, la vaillance, la bravoure, le courage et la compassion envers les formes de vie animales et végétales de la planète.
Oui, j'ai dit tout ça.
Ouais. Et bien d'autres choses.
Effectivement, il faut qu'on se serre les coudes, et pas simplement entre humains, mais avec nos comparses, les formes de vie non humaines, qui font partie totalement de notre écosystème et qui font les frais de l'anthropocentrisme généralisé sur cette planète. On ne représente que 0,01% de la biomasse terrestre, mais on a réussi à éradiquer 83% des mammifères. C'est quand même une belle performance. Aujourd'hui, ça menace notre survie même. Et je crois que l'urgence, c'est de restaurer la vitalité de ces écosystèmes et de toutes les espèces dont nous sommes totalement interdépendants. Je crois que c'est, en tout cas pour moi, l'un des combats majeurs de la décennie à venir, enfin des années qui viennent.
Lionel Astruc.
J'ajouterais, et de reconnaître le génie de la nature. Justement, enfin, un des grands travers, et je pense que c'est le cœur de cette stratégie de la Fondation Bill et Melinda Gates, c'est de croire aveuglément dans la technologie et surtout d'ignorer en fait le génie de la nature. Alors que décennie après décennie, on s'aperçoit qu'on n'arrivera pas à aller devant. Il faut arrêter de chercher, il faut arrêter en fait cette arrogance par rapport justement à la nature et arriver à reconnaître que c'est avec elle qu'on va y arriver et c'est pas en la transformant en machine avec des OGM, etc.
Alors avant de nous quitter, allons-y tous ensemble, en tout cas tous les deux déjà. Votre geste au quotidien, Lionel Astruc.
J'ai peur qu'on ait le même. Ben moi je suis végétarien. Entre autres gestes, il y a celui-là qui me semble important parce que je crois que c'est peut-être le geste le plus efficace en rapport contrainte-bénéfice.
Jean-Marc Gansil.
J'ai exactement le même. Je crois qu'il est extraordinairement emblématique, symbolique, impactant. Finalement, derrière cette industrie de la viande ou même du poisson, il y a une extraordinaire violence. Et finalement, nous nous nourrissons de cette violence et elle nous façonne. Et je crois que quelque part, refuser de manger les animaux, c'est de s'ouvrir à une nouvelle forme de fraternité et de pleine humanité.
Et votre phrase fétiche à tous les deux, Jean-Marc Gansil.
On peut tout fuir, sauf sa conscience. De Stéphane Zweig.
Lionel Astruc.
Je n'ai besoin de rien.
C'est de vous?
Je crois qu'il y a, je ne connais pas l'auteur, mais je crois que c'est un mantra bouddhiste.
Mais ça vous va bien.
Merci.
Merci, merci à tous les deux. Lionel Astruc, je rappelle le titre de votre livre, L'art de la fausse générosité. La Fondation Bill et Melinda Gates, un livre édité chez Actes Sud. Jean-Marc Gansil, Ne plus se mentir, petit exercice de lucidité par temps d'effondrement écologique. Et c'est édité chez Rue de l'Échiquier. Et bien sûr, toutes les informations, bibliographie, les liens. La revue de Web Environnement, les plus, les moins de la semaine sont à retrouver sur le site de l'émission franceculture.fr, rubrique de cause à effet. Téléchargement, réécoute de l'émission à votre disposition. Vous pouvez également, bien sûr, continuer de nous suivre sur Twitter, hashtag DCAFP ou sur notre page Facebook. Samedi prochain, nous serons en compagnie du docteur vétérinaire François Moutou pour évoquer notre amour, notre désamour des animaux. Et en seconde partie, Mathilde Himmer viendra nous parler de la mobilisation des jeunes pour le climat suite à la dernière grande manifestation mondiale. Et d'ici là, très bon week-end à vous déjà et puis restez à l'écoute sur France Culture à suivre les fictions.